Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui présentation du Trail du Saint-Jacques by UTMB avec le ravitaillement et puis l'organisation de ce ravitaillement. Alors, le ravitaillement a été pensé pour un effort d'à peu près 12 heures. Bon, en réalité ça va être 13, mais c'est pour vous donner un format. Voilà, on part sur un format 12 heures. Avec des choses qui ont été déjà testées lors du dernier survivant numéro 1 et numéro 2. Donc ces choses, ce sont le fait de manger quasiment 70 grammes de glucides à l'heure, le fait de se nourrir du coup uniquement de compotes et de Bao Kids, parce qu'elles sont plus faciles à avaler, parce que sur ces 12 heures, le rythme va quand même être un petit peu soutenu. Il va être en tout cas plus soutenu, c'est normal, que sur un effort 24 heures. Et du coup, l'idéal serait de remodifier ce ravitaillement pour l'UTMB, où le rythme sera plus lent, surtout au début, c'est faire très attention au début. Et comme sur les deux derniers survivants que j'ai fait, donc là on est sur un effort qui va durer une douzaine d'heures, 13 en réalité, deux shakers de whey qui vont être placés au tiers et au deux tiers à peu près, et un changement de chaussure qui va être placé un peu après le milieu, parce que si vous avez suivi le dernier survivant, du moins les récits que j'ai faits qui sont trouvables sur le drive, j'ai changé de chaussure. Le premier, j'ai changé de chaussure au bout de 7 heures, et le deuxième, j'ai changé de chaussure au bout de 5h30, et voilà, donc je vais changer de chaussure aussi assez tôt là, à ce moment-là. Peut-être au bout de 7 heures de course, il y a un ravitaillement, donc ça me semble tout à fait indiqué. Voilà. On va y revenir. Les caractéristiques de ce bordel, c'est qu'on part à 23 heures, donc ça c'est assez embêtant, parce que du coup, on va faire une nuit sans sommeil, alors que pour nous qui allons jouer les premières places du classement, ça va être 13 heures de course, et on pourrait tout à fait les faire de jour en partant à 5h du matin en arrivant à 18h. Mais voilà, on va tous devoir se taper une nuit. Et puis, j'imagine que les derniers, je sais pas ce que c'est la barrière horaire, mais si on fait deux fois le temps du vainqueur, ça va être quoi, 1h du mat dimanche? Donc en fait, les derniers vont se taper deux nuits. Du coup, on veut faire une solution qui plaît à la masse, mais en fait, elle pénalise la masse, puisque les coureurs vont partir sur une première nuit sans sommeil, ce qui va les mettre à mal pendant toute leur compétition. Et à la fin, ils vont se taper un début de deuxième nuit. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée, en fait, ce départ à 23h. Vous mettez un départ à 5h du mat. Tout le monde peut dormir assez bien. Allez, il va vous manquer quoi? Un cycle de sommeil, peut-être deux. Mais au moins, vous aurez eu deux, voire trois cycles de sommeil. Donc vous serez pas mal, quand même, déjà. Et après, vous avez la deuxième nuit à faire dehors. Mais ça vous en fait qu'une seule. Ou alors, un peu plus borderline, on part plus tard à 7h, donc là tout le monde dort encore mieux. Les premiers arrivent vers 20h. Et à ce moment-là, après, les derniers vont arriver, eux, le lendemain, ce qui est très sympa, avec du public, avec des choses comme ça dans la ville. Et c'est valable partout, hein. C'est pas que le Trail du Saint-Jacques, mais voilà, c'est un peu dommage de faire du mal gratuitement comme ça à tout le monde. Après, il y a peut-être d'autres contraintes hein, que je connais pas, qui sont liées aux courses, bien sûr, mais bon, si c'est juste pour faire un horaire sympa pour tout le monde, je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Le tracé, ça va être 123 km et 5100 mètres de dénivelé. Bon, alors ça, c'est ce qui est annoncé, après, ça va être un peu aléatoire. Ça va être un peu aléatoire dans le sens où le profil est quand même relativement évasif. Hein. Alors on va recevoir le GPX 24 heures avant apparemment. Donc on l'aura dans la montre pour ceux qui le peuvent, ça c'est bien. Mais voilà, pas de quoi se faire plaisir sur trace de trail. Tant pis. Et il y a 9 ravitaillements qui sont tous accessibles en voiture, donc ça c'est assez sympa. D'autant plus que si quelqu'un vous amène au départ en fait, après, il peut faire tous les ravitaux en retournant au Puy-en-Velay, ça fait pas énorme de détours, parce que le premier ravito, on y passe deux fois, parce que les autres, ils sont tout le long de la route. Donc voilà, c'est une course assez pas mal pour ça, assez simple. Le matos obligatoire, il est très léger. Et ça, c'est tant mieux. J'avais peur que, devenant by UTMB, la course doive se plier aux ribambelles de cochonneries qu'on nous force à prendre. La carte d'identité, bon, ça, je vois pas trop l'intérêt. L'éco-gobelet, bon, bah, ça c'est normal parce qu'on va pas nous servir du coca ou de l'eau au ravito, donc il faut qu'on ait notre gobelet. Donc moi j'ai un petit gobelet en plastique souple pliable, voilà, qui est très très bien. Une réserve d'eau de 1 litre, ah bah tu m'étonnes, il y a des ravitaux. On va pas être beaucoup à partir avec un seul litre, hein. Ou alors ceux qui le feront, ils vont se mettre gravement en danger. Parce qu'à un moment donné, j'ai quand même 2 heures et demie à un moment donné entre un ravito et un autre. Hein. Donc ouais. Une lampe frontale, bah oui, ça oui, hein, vu qu'on court de nuit, c'est mieux. Et là, bah, l'astuce, c'est que moi je prends ma lampe frontale, bon, qui est une bonne lampe frontale, qui éclaire bien. Mais qui du coup est un petit peu lourde, et puis avec sa batterie de secours. Mais au moins je suis peinard la nuit, et une fois que la nuit est finie, hop, je donne ma lampe frontale au ravito, et je prends une autre lampe, une toute petite, une e-light, qui est conforme au règlement, mais qui sert strictement à rien, si il fait nuit, ça éclaire zob. Une couverture de survie, bon bah voilà, si on se fait mal, hein, c'est mieux pour attendre les secours. Un sifflet, pareil, hein, si on s'ennuie pour attendre les secours, c'est mieux. Non, ça c'est au cas où on tombe au fin fond d'un ravin pour qu'on nous entende. Parce qu'apparemment, si on crie, au bout d'une certaine durée, on n'arrive plus à crier. Et je veux bien le croire. Donc le sifflet. Bon, tu vas me dire, c'est pas ça qui est le plus emmerdant. Veste étanche, imperméable, blablabla, 10 000 mm colonne d'eau. Bon, bah ça, j'ai ma petite Scott là qui fait 100 grammes en plus. Que je vais sans doute prendre, puisque ça annonçait plutôt une belle météo a priori. Puis si jamais ça se part en sgégou, bah j'ai la grosse Adidas. Le sac à dos de trail, bah oui, c'est mieux pour porter son eau et sa bouffe. Bande élastique adhésive permettant de faire un bandage. Oui, je l'aurai. Même si je me tords la cheville, moi je vais pas m'amuser à me faire un bandage avec la bande. Je vais plutôt aller en marchant à une route et appeler les secours. Réserve alimentaire, oui. Et le petit point de règlement un peu nouveau. Il faut un smartphone, le téléphone portable ne suffit plus. Avec l'application LiveRun. Bon, ben ça, c'est assez embêtant. Parce que du coup, ça me force à prendre mon téléphone, que c'est le mien à moi. Et ben, c'est un Samsung S9, donc ça coûte un peu cher. J'ai pas envie de l'abîmer. Donc je vais devoir, en plus de lui mettre une coque, le suremballer. Voilà. C'est un peu. Je pense quand même qu'un téléphone avec un simple numéro, c'est pas trop mal, mais bon. C'est vrai qu'avec le smartphone, voilà, on peut dire où on est. C'est vrai que ça fait gagner du temps. On peut trouver tout de suite où on est via le GPS. Mais encore faut-il avoir du réseau. Encore faut-il avoir de la batterie. Alors les mecs qui te disent, ouais, bah faut partir avec une batterie externe. Oui, bon, bah à un moment donné, voilà, vous n'allez pas pouvoir me sauver, hein, de tous les dangers du monde qui nous entourent. Voilà, c'est bien d'avoir un téléphone portable. Après, voilà, ça, bon. Où s'arrête-t-on, quoi, après, au bout d'un moment? Est-ce qu'il faudra pas bientôt courir avec une GoPro, tu sais, pour que si on tombe, qu'on voie si c'est de la faute de l'organisation ou de la nôtre? Et j'ai presque peur, en disant ça, que quelqu'un m'entende et que ça lui donne une idée. Et on va courir avec une GoPro, putain. Alors, les ravitaillements, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc on part de Sog. Bah Sog, tu connais Sog? Ah non, on connaît pas. À 23 h. Là, ben, je poserai mes affaires pour patienter, puisque mes parents viennent suivre la course. Eux, c'est des fanatiques, hein. Ils viennent pour leur propre plaisir avant le mien, j'ai l'impression. Et sur place, voilà, c'est 23 h, je consomme une petite Baou Kids. Je prendrai ma capsule de caféine, puisque j'en serai à plus de 10 jours de sevrage. Donc là, bim, ça y est, on réveille la bête. Et 150 minutes de ceinture. Je ne pars qu'avec une flasque, enfin j'en ai une autre vide pour coller au règlement de la course. Je ne pars qu'avec une flasque et elle est remplie de quoi? Elle est remplie de 40 grammes de maltodextrine bio de manioc. C'est la seule maltodextrine qui a un dextrose équivalent relativement bas. Donc c'est la seule chose que vous pouvez consommer sans faire un pic de glycémie. Toutes les autres boissons, c'est du sucre en poudre. Cher, certes, mais ça reste du sucre en poudre. Dans cette flasque, pour aller avec la malto, parce que sans eau, c'est un peu dur. Je mets 220 ml de ceinture, que j'ai fait dégazer avant, sinon ça explose. Et je remplis le reste d'eau, voilà, avec 2 g de BCA. Et toutes mes flasques seront constituées de la même façon. Et après, j'ajuste les glucides, en fait, en mangeant tantôt des purées, tantôt des Bow Kids, et puis avec le nombre qui varie. Là, pour la première section, pour aller au premier ravito, qui se situe 12 km plus loin, moi, j'ai prévu 1h10, une purée pomme-poire et une Bow Kids. Voilà. Donc, premier ravito, on arrive à Prad. C'est un profil qui est assez descendant, même s'ils annoncent... qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Ils ont annoncé 500 mètres de dénivelé, mais j'ai un petit peu de mal à y croire. Bon, alors, là, les traits sont très grossiers, donc c'est dur à estimer, mais apparemment, il y a une bosse de 200 mètres de dénivelé au départ. Après, on descend, on refait une bosse, je dirais qu'elle fait 100 mètres, donc ça ferait 300 mètres. Puis après, il y a un autre bout de bosse. Ouais, ils ont vu ça un peu... à mon avis, on va avoir... Ah, mais il y a 15 km, il n'y en a pas 12. Ouais, bon, c'est pénible, ce profil. Voilà, 15 km. Et 450 de dénive. Ouais. Voilà. 1h10, bon, c'est peut-être un peu audacieux, en fait, 1h10, du coup. Ouais. J'étais parti sur 12, moi. Bon, c'est pas grave. On part de Prad, et en fait, on revient à Prad. Sauf que on va mettre 23 km et 1500 de dénive pour revenir à Prad. Donc là, c'est un peu long. Il y a 2h... je prévois 2h15 pour faire ça. Donc à peu près du 10 de moyenne, ce qui est un peu ambitieux. Ah, mais j'ai fait une connerie dans le document. Ouais, bah je vais le modifier. Voilà. Donc vous aurez la bonne version, hein, mais au moment où j'enregistre, il y a une énorme boulette dans le document. Quoique. Non, il n'y a pas de boulette. Non, il y a vraiment 1500 à faire. Mais comment ça se fait? On part de 500, on arrive à 1300, ça fait 800. Ouais, bon. Tout leur dénivelé est assez faux, je pense. Bref. Donc, l'estimation est quand même compliquée. Du coup, je vais boire 250 ml de ceinture sur ce ravito parce que on part pour 2h15. Et si je pars uniquement avec mes deux flasques, plus deux purées pomme-poire, plus trois Bow Kids, ça va être un peu léger. Et je prends une demi-purée de patates douces. Après, j'arrive à ce que j'appelle Prad numéro 2. Donc là, on a fait 3h30 de course. On est au kilomètre 38 et on aura fait 2000 mètres. Bon, j'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas. Là, je m'arrête de boire un petit peu de ceinture, une demi-purée de patates douces, et je prends mon premier shaker de whey, puisqu'on en est à 3h30 de course, ce qui est quasiment le tiers, plus une capsule de caféine, puisque c'est à peu près une toutes les 4 heures, quoi. Disons une toutes les entre 3 et 4 heures. Et puis je repars avec une flasque et demie, plus une purée banane kiwi et deux Bow Kids. Alors une flasque et demie, bah, c'est facile à faire. En fait, moi, tout mon mélange, là, malto, ceinture, eau, BCA, tout ça, je le mets dans une grande bonbonne de 5 litres, ce qui fait qu'après, on peut remplir facilement des flasques, on peut s'amuser à remplir des tiers de flasques, si on veut, et pas de souci. Alors là, maintenant, rendez-vous à Monistrol d'Allier. Donc là, ça y est, on part de Prad, et on commence à se diriger petit à petit vers le Puy-en-Velay. Monistrol d'Allier, bah, ça nous fait quasiment 5 heures de course, puisqu'il y a 51 km et 2775 mètres de dénivelé positif. Alors, à mon avis, il y en aura un peu moins. Là, je consomme toujours la même chose au ravito, 150 ml de ceinture avec une demi-purée de patates douces, et je repars avec une flasque, une purée pomme-poire et deux Bow Kids, parce que le prochain ravitaillement est 7 km après. Donc, ça va être assez rapide. Il est 7 km après, il y a un peu plus de 500 mètres de dénivelé, donc je prévois un petit peu moins d'une heure pour y arriver. Et donc on arrive à Saint-Privat-d'Allier, qui est le ravitaillement numéro 4, après 5h45 de course. Là, ben, c'est toujours un peu la même stratégie, donc on va être sur une fin de nuit, on va être un peu avant 5h du matin. Donc toujours les 150 ml de ceinture, la demi-purée de patates douces, la capsule de caféine, une flasque, une purée banane kiwi et deux Bow Kids, parce qu'on repart encore une fois pour une bonne heure de course. Là, il y a 9 bornes pour nous amener à Saint-Jean-la-Calme, Alors là, on descend, on remonte un peu, et le ravito, il est au sommet, à Saint-Jean-la-Calme. C'est un peu. C'est pas le sommet de la course, mais après, on a une longue portion de plat et de descente avant de remonter. À ce moment-là, on aura fait 67 km et quasiment 7 heures de course. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer de chaussure. C'est vraiment le dernier moment pour changer de chaussure. Après, ça sera un peu tard quand même, c'est dommage. Et surtout, après 7 heures de course, ça va être 6 heures du mat. Normalement, on n'a plus besoin de frontale. Donc, je vais poser ma grosse frontale, je vais prendre la petite. Et je vais changer de chaussure. Donc, au lieu d'avoir les. Je vais partir avec les Timp. Je vais les enlever pour mettre les Olympus. Donc, là, vraiment, la plus maximaliste de chez Altra, quoi. Voilà. Je consomme beaucoup de ceinture parce qu'il y a une grosse section après. Mais non, il n'y a pas une grosse section. Ouais, il s'est gouré, là, Seb, en fait. Il s'était gouré, du coup. Je vais remettre 150 ml de ceinture. Une purée pomme-poire, aussi une demi-purée. Et puis je repars avec la petite frontale hein, pour coller avec le règlement, bien sûr. Là, une flasque. Ah, ouais, une fl ah oui, c'est pour ça que je bois 250 ml de ceinture. Je repars qu'avec une flasque pour faire les 12 km. Plus deux purées pomme-poire, plus deux Baukins. Et j'arrive à l'Heras. Kilomètre 79 après 8h10 de course. Et là, c'est le moment de boire le deuxième shaker de whey. Et puis, si tu as suivi, on est encore sur un multiple de 4. Donc, troisième capsule de caféine, c'est parti. Bien sûr, la ceinture et la demi-patate douce au ravito. Et puis là, on repart pour une bonne section, quasiment 1h30. 1h30, ouais, j'ai mis 1h30. C'est peut-être un peu pessimiste, 1h30, parce que. Ouais, c'est une longue montée régulière. Ouais, ça peut se faire à 10, ouais. 14 bornes, ouais. Ah bon, on arrive au lac du Bouchet. Donc là, lac du Bouchet, on commence à voir un peu la fin. Il va rester une dernière grosse montée pour faire les deux monts, là. Le sommet Mont-Recours et le sommet Mont-de-Vais. Et après, ce sera la longue descente jusqu'au puits. Donc, lac du Bouchet, ben, on repart voilà, avec une flasque et demie encore une fois, parce qu'on a encore une section d'1h30 à peu près, jusqu'au prochain ravito. En fait, ça va être assez particulier, parce qu'en sortant du lac du Bouchet, on va monter. D'ailleurs, c'est assez raide, là. Et après, ben, on aura une longue descente. Donc, on va monter. Il y a 16 bornes, on va monter quoi? 2, 3. Ouais, 5 km, et puis on va descendre 11 km, en fait. Donc là, ça va être vraiment. Il va vraiment falloir courir. Et c'est là que les Olympus vont prendre tout leur intérêt. Parce qu'en les mettant à Saint-Jean-la-Calme, derrière j'ai un peu de montée-descente. J'ai déjà une longue descente avant le kilomètre 80. Donc là, elles vont être déjà intéressantes. Après, dans la montée, bon, voilà. Et cette très longue descente jusqu'au Puy-en-Velay, hein, du kilomètre quasiment 100 jusqu'à 123, hein, c'est quasiment uniquement de la descente. Là, elles vont être très très utiles. Ravitaillement numéro 8 à Saint-Christophe. Après 11h10 de course, donc il va rester 10, il va rester 15 km. Il va rester 15 km et du coup, je ne m'arrêterai pas au ravitaillement numéro 9, les Chibottes, parce que là, il est à seulement 4 km de l'arrivée, d'autant plus que c'est 4 km vraiment en descente, donc pas vraiment besoin de s'arrêter normalement. Et arrivé au Puy-en-Velay. Comment ça, j'ai prévu 11h30? Mais non, mais là aussi, je me suis gouré. Ouais, je vais vraiment modifier le document. Et les petites erreurs de frappe. Arrivé au Puy-en-Velay en 12h30. C'est ce que j'ai pronostiqué. Avec les moyens du bord. Donc la carte qui a été donnée par l'Ultra Trail, là, du Saint-Jacques. Et puis le profil. Mais on n'a pas le truc sur trace de trail pour zoomer, dézoomer. Voilà. Donc, bon, c'est pas très très grave, hein. C'est pas très très grave. Le parcours, je vous l'ai rappelé, hein, il est juste après, là, c'est la carte que je vous mets. Les favoris, alors ils sont, il n'y en a pas, presque. Il y a Dylan Baumann qui est inscrit. Après, je suis quand même pas tout à fait sûr qu'il vienne, parce que, en début de semaine, il était encore aux USA, et j'ai pour l'instant rien vu passer sur ses différents réseaux sociaux, comme quoi le mec venait en France, parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre l'avion pour venir. Donc, je pense quand même qu'il ne sera pas là. Hein. Bon, on verra. S'il est là, alors c'est évidemment le grand favori sur un parcours entre guillemets roulant comme ça. Lui qui court très très vite. C'est vraiment ce qu'il adore. Des parcours un petit peu long, avec pas trop de dénivelé. Un petit peu, hein, quand même, mais voilà, c'est pas un parcours vraiment en montagne, on va faire de la marche bâton. Vraiment, ça lui convient très très bien. Et puis derrière, bah, c'est Aubin et moi. Bon, nous, on est plus sur des trucs montée-descente, hein. Plus c'est montagneux, meilleur on est. Mais bon, voilà, là, il y avait une course, bah, UTMB, qui est à 2h30 de voiture. Ce serait quand même dommage de passer à côté. On voit beaucoup de coureurs élites qui nous font de très très beaux discours moralisateurs sur l'écologie. Et puis, bah, aucun d'entre eux n'est venu encourager, n'est venu saluer le courage de l'organisation du Trail du Saint-Jacques qui s'est plié entre guillemets à la volonté de l'UTMB. Voilà, les organisateurs du Trail du Saint-Jacques restent tout aussi sympathiques que l'année dernière. Et cette année, ils ont fait un très très gros effort pour être estampillés by UTMB. Et voilà, c'est un peu dommage de la part des coureurs français de bouder cette course. Voilà, donc ça va au Lavaredo, ça va, voilà, le Lavaredo c'est 8 heures de voiture, certains vont même y aller en avion d'ailleurs. On leur pose pas trop de soucis, alors qu'en même temps il y avait cette course-là. Voilà, alors bien sûr tout le monde a ses raisons, puis si je m'amuse à critiquer ça sur les réseaux, ils me feront remarquer que j'ai pris l'avion pour aller aux Canaries, ce qui est tout à fait vrai. Mais j'en reviens progressivement. D'ailleurs, l'an prochain, au lieu de faire les Canaries, je pense qu'un petit Seven Trail qui est à 3 heures de la maison sera tout à fait indiqué. Il paraît que c'est magnifique et je n'y suis jamais allé, donc ce sera l'occasion. Il y aura aussi Samir Tazi dans les favoris, notre patriote sudiste d'Endurance Shop Marseille, que j'avais quand même largement battu aux Canaries, parce qu'il y a 1h15 entre nous, mais qui, sur un profil un petit peu moins montagneux que les Canaries, bah, peut donner du fil à retordre. Hein, Samir, qui va retrouver un terrain qu'il connaît un peu mieux. Après, il y a René Rovera. Alors, René, je ne sais pas trop, parce que c'est surtout quelqu'un qui prépare beaucoup l'UTMB. Est-ce qu'il a la même facilité à préparer le Trail du Saint-Jacques? Voilà, faut quand même s'en méfier. Et puis, je vous ai mis Guillaume Crétinon aussi, mais qui évolue peut-être un cran en dessous. On l'a vu sur le Nivolet Revard. Bon, c'était pas tout à fait le même niveau. Puis, je crois que pour Guillaume, c'est un peu une première sur un ultra-trail. Donc, tout du moins, c'est pas vraiment sa distance fétiche. Donc, lui, il sera peut-être la plus en découverte. Voilà, donc ça va être une course où il va falloir faire attention. Donc, c'est pour ça que je vais faire un départ prudent, en étant vraiment très très lent, voire il faudra juste que je fasse attention à ne pas l'être trop, parce que je pense que je me le suis tellement répété que je vais vraiment l'être. Et l'accélération se produira doucement mais sûrement, à partir du moment où j'aurai mis... voilà, donc on passe pour la deuxième fois à Prades, je bois mon petit shaker de whey, derrière on va commencer à s'impliquer un petit peu, mais comme disait le coach, voilà, pas passer de off à on, hein, d'un coup tu prends plus 30 pulses et tu fais la guerre. Non, non, voilà, du deuxième passage à Prades jusqu'à Saint-Jean-la-Calme, là où je change de chaussure, on va s'impliquer un petit peu, on va commencer peut-être à souffler un peu dans les bosses, etc., mais en restant quand même mesuré. Et à Saint-Jean-la-Calme, là, je mets mes chaussures, je fais le plateau, entre guillemets, encore un peu à la même allure parce que je viens de mettre mes chaussures. À l'Heyras, j'y descends assez vite. Et après, il n'y a plus de limite dans la montée au lac du Bouchet, dans la montée... Au Mont d'Ével, il n'y a plus vraiment de limite. Là, il faudra tout donner et pour ensuite faire une très très grosse descente jusqu'à l'arrivée. Je noterai que les temps peuvent paraître ambitieux, mais de ce qu'on m'a dit, hein, des coureurs qui sont allés les années passées, alors c'est vrai qu'il y a des singles, il y a parfois des singles assez techniques, ça reste quand même relativement rare et la majorité du temps, ça va être de la piste forestière, voire même de la route. Du coup, c'est pour ça qu'on va quand même pas mal dérouler la foulée, même si bien sûr, à chaque fois qu'on arrive dans un single, il faudra faire très attention, parce que si on a été sur une portion roulante pendant 2-3 km, on arrive dans le single et c'est là où on casse tout, où on tombe, où on se tord la cheville, trucs comme ça. Donc, très grosse méfiance, même si on n'est pas sur un parcours alpin ou particulièrement technique comme Beldon. En fait, méfiance, parce qu'on va passer de moments de course très faciles à des moments, certes un peu plus rares, mais où il faudra être focus. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, vous avez tout le document à télécharger avec le parcours et tout ce qu'il faut pour vous repérer, puis bah la trace sur Strava une fois que je serai arrivé. Voilà, salut.